chaque lecteur a ses références au niveau de l'ésotérisme, au niveau de, du spirituel, au niveau de la cabale ou de tout ce qui est magie, tout simplement. Si on fait un tour de passe-passe avec, avec des cartes ou avec des sucres, comme c'est le cas dans le premier tome, bah, ça peut être impressionnant et il y a des tours de passe-passe quand on voit le gars qui marche sur la Tamise ou qui passe à travers une glace. C'est un truc. Il y a un truc, il ne l'a pas fait. Quel est le truc, on ne le sait pas. Donc c'est étrange, c'est incroyable. Mais quand on arrive dans l'étrange plus spirituel, au niveau des rapports humains, au niveau des positions humaines, au niveau donc, du jeu de manipulation, du jeu des masques, du jeu des apparences, et que ça devient des métaphores de quelque chose, là je pense que c'est là que ça prend une autre dimension, que ça devient intéressant. Mais les lecteurs vont interpréter ces éléments par des métaphores différentes. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans Coda, c'est qu'il n'y a pas une chose qui est définie et que le lecteur va pouvoir lire en se disant « Ah, c'est ça, c'est un as de cœur ». Non, ça peut être peut-être un as de pique ou un as de trèfle, mais c'est la métaphore de quelque chose et ça peut être interprété de façon différente d'une lecture à l'autre. Et si on lit plusieurs albums en suivant, on va trouver des choses qui seront différentes que si on lit les albums séparément.
D'abord, il y a plusieurs étranges. Je pense que de toute façon, ça je l'ai dit depuis le début de ma carrière, car c'est une chose que j'ai apprise très très jeune, que j'ai ressentie très très jeune, nous avons tous notre part fantastique dans notre vie. Nous avons tous une part de magie dans notre vie. Malheureusement, la vie quotidienne, le timing du monde moderne, le fait qu'on ne puisse plus rêver, le fait qu'on ne puisse plus s'asseoir sur un banc pour rêvasser, le fait qu'on ne puisse plus faire la sieste, le fait qu'on ne puisse plus faire durer un repas pour discuter, le fait qu'on doit être performant 24 heures sur 24 heures, a diminué notre part magique et a diminué la part magique du temps. On le retrouve dans certains voyages, on le retrouve en Afrique, on peut le retrouver lorsque vous êtes dans une vieille bagnole et que vous faites les longues routes du Mississippi. Le temps bouge, la part de magie d'étrange se remet en place. Mais quelque part dans les cités modernes, dans le monde moderne, dans l'économie moderne, dans la machine moderne, on a effacé notre part de magie. On passe tous à côté, je vois des grandes portes là. On passe tous à côté des grandes portes et derrière ces grandes portes, il y a un grattement. Il y a quelque chose qui gratte. Il y a quelque chose qui chuchote. Il y a quelque chose qui bouge. Il suffit simplement d'accélérer le pas, de s'arrêter un moment, de tendre l'oreille et vous entendrez cette part magique qui vous entoure. Nous ne l'entendons plus, nous sommes sourds et aveugles et nous avons perdu beaucoup de cette magie-là. Donc quelque part, la notion de magie, pour moi, est une notion chevillée au corps, chevillée à l'esprit. Elle mène au spiritisme, mais elle peut mener aussi à la spiritualité. Et c'est vrai que quelque part, pour moi, elle fonctionne admirablement bien parce qu'elle donne des caisses de résonance fabuleuses à votre vie. Je ne peux pas concevoir une vie sans écho spirituel. Je ne peux pas concevoir une vie faite simplement de gestes et de paroles et d'actes. Je crois qu'il y a des résonances, je crois qu'il y a des réverbérations, je crois qu'il y a des voix en vous qui vous informent, qui vous enrichissent, mais on devient de plus en plus sourd. Ce qui est génial dans notre métier, c'est d'essayer de prendre ces idées-là, mais qui nous sont chères, et de les transmettre de façon populaire. C'est ça qui est bien. On ne demande pas, pour que l'on puisse lire Coda, d'avoir fait des études supérieures, l'université, d'avoir fréquenté les écrits de Kant ou de Kierkegaard. Je pense qu'il y a d'abord une émotion, j'espère, dans Coda, que les gens vivent une émotion, une aventure. Il y a des couches de lecture, il y a des sous-lectures, et comme le disait Olivier, quand vous réunissez les 15 volumes, il y a encore des sous-couches et des sous-couches. Et donc voilà, c'est un jeu libre. Je crois qu'une œuvre est un jeu libre. À vous de vous amuser, à vous d'aller très vite, à vous de vous arrêter, à vous de lire Coda sur un banc, de le lire dans le métro, de le lire dans votre lit, de le lire en l'oubliant tout de suite, ou de le lire en écoutant les notions que l'album dégage. Et c'est ce moment magique où, à partir de Coda, vous commencez à avoir envie de raconter vos propres histoires. Et ça, c'est un pari gagné pour moi.
Si j'avais envie de travailler avec Jean, c'est pour cette raison-là, parce que justement, il y avait ces vibrations que je retrouvais aux lectures de ces albums. Et ces vibrations-là m'interpellaient. J'ai toujours été intrigué par le paranormal, par ce qui pouvait être justement derrière, comme dit Jean, le grattement derrière la porte, ou bien des choses qu'on ressent mais qu'on ne peut pas définir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on ressent et qu'on ne peut pas définir. Et c'est comme un challenge pour un dessinateur, c'est que dans le scénario, il y a des choses que je peux ressentir, mais que je dois définir, que je dois transcrire, que je dois dessiner. Et là, ça devient le côté magique qu'il y a dans Coda. Parce qu'il y a des choses qui sont mises sur le papier qui étaient bof, et puis tout à coup, il y a des choses qui, waouh, qui m'ont surprise moi-même. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du mysticisme ? Moi, j'aime bien quand, si je suis en méditation ou en interrogation par rapport à tout ça, ne pas avoir de réponse concrète. Parce que j'estime que les mots humains ne conviennent pas à ces choses qui viennent de l'au-delà ou qui sont propres au mysticisme ou au paranormal. Je crois que le ressenti est impossible de gérer dans une phrase, en tout cas de transmettre dans une phrase. Je crois que c'est impossible de transmettre dans une phrase. Et c'est paradoxal, hein, ce que je dis, complètement paradoxal, parce qu'en même temps, je dis que, voilà, on parle de choses qui sont impossibles à transmettre et que notre rôle, c'est de transmettre. Donc, c'est quoi ? C'est une tentative, c'est un jeu, c'est un challenge, et c'est ça qui est magnifique, c'est d'essayer de trouver quelque chose. Et je pense que la relation texte-image est vraiment intéressante pour ça. Au cinéma, c'est tout de suite difficile, parce que les personnages bougent, parce qu'on peut plus difficilement suggérer, et donc, voilà, là, il y a un challenge à faire et je suis sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire à ce niveau-là.